Nous sommes le jeudi 6 novembre, il est 21h et des poussières sur Radio Canu 102.2. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de... Le nerf de la game, pardon, le nerf de la game, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative chaque semaine ou presque. Vous retrouverez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité, surtout du côté indépendant du paysage vidéo ludique. Oui, c'est bien moi, Xavier, qui suis de retour au micro après que mes collègues aient brillamment pallié mon absence malgré l'emploi d'un vocabulaire, disons, malheureux à mon encontre, mais qui a provoqué quelques nécessaires réajustements.
Mais tu vas la fermer.
Ainsi, Bettina est envoyée cette semaine dans une résidence gardée pour prendre le temps de réfléchir à ses paroles. Et Romain, ici présent, a vu l'intégralité de sa ludothèque vidéo lui être confisquée jusqu'à la fin de l'année. Et dans ma grande générosité, je lui ai accordé de garder un jeu. Il a choisi Mind's Eye. Bonsoir Romain.
T'es insupportable, tu sers à rien. Salut Xavier.
Comment vas-tu?
Ça allait pas mal, jusqu'à il y a deux minutes. Non, ça va.
Je sers à rien, mais je sais appuyer sur un bouton, moi. D'accord.
Donc... Quoi? Mais le replay sera complet.
Romain, qui, quand il ne réalise pas cette émission...
Main de maître.
Anime sa propre émission à vos souhaits sur Twitch et fait aussi plein d'autres choses sur sa chaîne Twitch. Comment elle va ta chaîne, dis-moi?
Bah écoute, doucement, elle vivote tranquillement, on s'amuse bien, on est une dizaine, une quinzaine à chaque fois, c'est rigolo.
Bon, très bien, en tout cas, toujours des streams de 6 heures minimum le mercredi.
Oui, écoute, on se laisse un peu emporter. C'est le temps qu'on n'a pas ici. Que je récupère à parler, à dire des choses devant des gens.
Voilà. Non mais t'as raison. On va arrêter de perdre du temps et on va attaquer le gros sujet de l'émission au sommaire cette semaine. Un sujet unique, un sujet qu'il est temps d'aborder de façon globale et sérieuse. C'est l'impact et l'utilisation de l'intelligence artificielle, donc l'IA, dans le monde du jeu vidéo en 2025. Alors que l'IA change radicalement la création, la production et même l'ambiance sociale des studios. Nous allons faire le tour des décisions et des positions publiques des différentes entités de l'industrie, car derrière les annonces flamboyantes et les partenariats technologiques, il y a aussi des licenciements massifs et des choix stratégiques qui bousculent tout un secteur. Romain, est-ce que tu es prêt pour faire le grand tour des belles paroles qu'on a pu entendre ces dernières jours, semaines, mois, heures d'ailleurs?
Oui,
aussi,
dans certains cas, absolument.
Dans certains cas, au niveau des prises de position, au niveau de l'intelligence artificielle.
Malheureusement, oui, c'est quelque chose qui va nous prendre du temps. On n'a eu pas le temps de tout dire, mais c'est un peu pour montrer déjà les différentes approches, les différentes communications officielle et publique autour de ça, qu'elle soit dans un sens comme dans l'autre.
C'est
d'ailleurs
ça
va être d'autant plus intéressant effectivement que ça va pas forcément dans tout dans le même sens, mais oui, c'est un sujet que ça fait un petit moment qu'on tourne autour, qu'on l'évoque comme si par-ci par-là, qu'on l'avait évoqué lors du rachat de Electronic Arts par exemple. C'est des choses qu'on avait un petit peu, enfin qui sont toujours un peu autour de nous,
bien sûr.
On a beaucoup parlé
bien
de Microsoft, sûr, ouais, ici aussi ces dernières années. Voilà, c'est un des principaux sujets, l'IA chez Microsoft. Mais oui, ça va être... C'est de toute façon un sujet qu'on allait aborder à un moment. Ouais. On commence aujourd'hui, on n'aura pas terminé aujourd'hui.
Impossible.
De toute façon, c'est quelque chose qui est toujours en évolution. Et on ne va pas, de toute façon, voilà, déjà faire le tour de la situation actuellement, mais on fera... comme on l'a toujours un petit peu fait aussi dans cette émission, prendre le pouls à intervalles irréguliers plutôt que de courir après l'actualité, l'information, etc. Pour avoir un peu le temps en fait, d'avoir un peu de recul et de, bah, pas de compter les points, mais un petit peu de voir comment ça... S'il y a des discours qui évoluent aussi, ça pourrait être intéressant par exemple.
C'est ça. Et donc, ce qu'on va commencer par faire, c'est regarder les plus gros acteurs du secteur pour voir en fait un peu leur position publique et peut-être aussi les réactions qu'il peut y avoir en interne ou au niveau des suiveurs par rapport à ces positions-là. Mmh. Comme tu le disais, difficile de ne pas commencer par Microsoft, hein, donc géant du numérique qui tient désormais un rôle central dans la, convergence entre cloud, jeux vidéo et intelligence artificielle. En 2025, la firme de Redmond a accéléré de façon très spectaculaire ses investissements dans l'IA. Il y en avait déjà beaucoup avant, mais là, cette année, c'est 80 milliards de dollars injectés dans des infrastructures de data center et pour entraîner et héberger des modèles IA. Un chiffre vraiment ahurissant, sachant que 80 milliards, pour rappel, c'est plus que pour racheter Activision Blizzard King.
Par exemple.
Par exemple.
C'est plus que le rachat d'Electronic Arts.
Voilà,
c'est plus que pas mal de choses, 80 milliards de dollars.
En gros, c'est plus que n'importe quelle transaction qui s'est faite d'entreprise à entreprise dans le jeu vidéo actuellement. Donc, oui. En termes d'investissement, il faut se dire que c'est absolument gigantesque. Donc, rien que, par exemple, je suis allé voir un article de la BBC, au Royaume-Uni, on parle d'un plan de 30 milliards de dollars supplémentaires pour l'IA et le cloud dans le sillage d'un partenariat stratégique renforcé avec OpenAI, qui est donc l'entreprise la plus en avant du côté occidental sur les technologies d'intelligence artificielle générative.
Pas surtout parce que ça est derrière ChatGPT par exemple.
C'est ça.
C'est le nom qui revient quasiment en premier.
Voilà. Et donc OpenAI à qui Microsoft promet d'acheter plus de 250 milliards de dollars de ressources informatiques d'ici la fin de la décennie. Voilà. Donc évidemment.
Petit aparté juste quand même globalement parce que c'est énormément d'argent effectivement qui sont cités. On va citer beaucoup de sommes et d'investissements. Toujours intéressant en fait de lire l'avis de Ed Zitron, j'imagine, oui. Je crois qu'il est américain.
Oui, américain. Oui.
Et là-dessus, en fait, sur la bulle, ce qu'il appelle la bulle IA, et ce que lui en fait présage et anticipe un éclatement de cette bulle, comme on l'a
dit. Tu peux juste rappeler qui est Ed Zitron?
Techniquement, non, j'aurais pas le détail. je lis ce qu'il écrit, mais c'est vrai que je suis rarement penché sur.
C'est un analyste.
Ouais, c'est un analyste financier.
C'est un analyste financier.
Qui est tech
pas
aussi.
Voilà tech qui est pas orienté jeu vidéo, qui est juste orienté en gros il est là depuis la création du Nasdaq en gros, hein, donc
c'est comme quelqu'un qui sait de quoi il parle,
c'est ça.
Et du coup voilà, enfin lui observe ça d'un œil très critique et considère que c'est les entreprises qui pour l'instant brûlent des millions voire des milliards de dollars pour pousser une technologie sans forcément avoir encore un objectif, enfin des résultats et des revenus financiers qui les justifient.
Mmh. Voilà. Et d'ailleurs, cette course effrénée je suis l'entreprise qui investit le plus dans l'IA a des conséquences chez Microsoft. Rien que sur les deux dernières années, depuis janvier, 15 000 suppressions de postes chez Microsoft, dont une partie significative concerne la filière jeux vidéo, donc la filière qu'on appelle Xbox. Licenciements, délocalisation de talents, fermeture de studios sont désormais monnaie courante. Évidemment, de façon claire, je passe les détails sur les studios, sur les noms des studios, sur ce qui va pas, parce qu'il y en a beaucoup trop derrière.
Voilà, jusqu'à la fin de l'émission.
Voilà, parce qu'il y en a beaucoup trop derrière, mais clairement tout ça est monnaie courante afin de dégager des marges de manœuvre pour ces investissements technologiques titanesques. Ce qui explique notamment les chiffres annoncés de rentabilité voulue sur d'objectifs de rentabilité voulue sur les studios de jeux vidéo pour justifier clairement les prochains licenciements. Mmh. Une politique qui passe vraiment mal, d'autant qu'une part croissante des salariés doit s'adapter à des outils IA, parfois imposés dans leurs tâches créatives ou de gestion. C'est quelque chose dont on parlera un peu plus tard de façon plus concrète chez Electronic Arts, mais on peut citer un exemple récent chez Microsoft, en juillet 2025, King, qui est à l'origine du gigantesque Candy Crush.
Mmh. Donc, vraiment un brasseur de pognon assez monumental. Voilà.
Et qui est devenu suite à l'acquisition d'Activision Blizzard King, est devenu une propriété de Microsoft. Voilà. En juillet 2025, King a annoncé la suppression de près de 200 postes, soit 10% de ses effectifs, ce qui n'est pas rien pour une boîte de cette taille-là, dont l'essentiel est remplacé purement et simplement par des outils IA créés par les équipes elles-mêmes. Des level designers, des narrative designers et même la partie majeure de l'équipe de Farm Heroes Saga ont vu leur job supprimé. Leur propre technologie d'IA génératif prenant leur relais. Le moral des salariés restants est effectivement a été en chute libre, avec des citations comme celle-ci: c'est absurde de virer ceux qui créent les meilleures boucles de jeu sous prétexte d'efficacité alors que le succès de la boîte est intact. C'est ce qu'on a pu lire notamment dans l'article de Bloomberg qui parlait de cet état de fait. Derrière l'enjeu de rationalisation, plusieurs voix dénoncent une volonté de réduire au silence tous ceux qui critiquent ouvertement la gestion sociale de King et son retour à l'IA. Et de toute façon, il y a beaucoup de choses à dire sur la politique de Microsoft de manière générale et les voix dissonantes. Et ça tombe bien parce que c'est pas la dernière fois qu'on en parle dans cette émission. Ce cas met en lumière le syndrome du serpent qui se mord la queue, en fait. Il y a des équipes qui investissent toute leur énergie à entraîner des modèles qui vont les remplacer. C'est oui, pour le coup, avec King, on en avait parlé pour cet été, justement.
C'est un vrai exemple concret, en fait, de personnes là, virées comme ça.
Mais là, voilà. Celle-là, c'est l'exemple le plus parlant parce que il y avait vraiment des gens qui disaient, eh ben, en fait, il y a déjà eu une première vague de licenciements. On nous a dit, si vous voulez rester, il va falloir vous entraîner l'IA qui va permettre de faire le narrative design et le level design. Et ben, une fois que ça a été fait, on les a virés eux aussi, quoi. Donc c'est,
c'est du cannibalisme, j'en sais rien, je sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça. C'est effectivement extrêmement cynique aussi. Je comprends le côté moral, en fait, et la façon dont les employés restants se demandent à quelle sauce ils vont être mangés et dans combien de temps.
C'est ça. Donc on est sur un modèle qui est censé accélérer la production, mais qui scelle la mise au rebut de ses créateurs humains.
C'est ça qui va être intéressant sur le moyen terme, parce que, bon, c'est un élément qui est connexe à tout ça et dont on verra réellement les effets dans
quelques années,
quelques temps en tout cas. À partir du moment où tu n'auras plus rien pour alimenter ces intelligences artificielles par du contenu, par de la créativité, qu'est-ce qu'elle va finir par ressortir, parce qu'elle n'existe que parce qu'elle a pu manger avant. Elle ne fait que régurgiter dans un sens, dans un ordre différent, où voilà, elle réagence en fait des choses qui ont déjà été créées. C'est son seul but. Elle n'est pas créative en tant que telle, parce qu'elle n'existe que parce que les éléments qu'on lui a fournis pour s'alimenter. Du coup, il y a un moment où on le voit déjà un petit peu au niveau visuel, en fait, au niveau de l'IA générative, au niveau des images, en fait, et même des vidéos.
Avec tout qui se ressemble un peu, quoi.
Tout qui commence à se ressembler un peu, cette teinte jaune pisse qui recouvre tout. C'est pas un bug, hein, ça fait partie du concept, ça fait partie du fonctionnement, en fait, du truc qui s'auto-alimente en se repliquant d'une certaine façon, qui va donner quelque chose de relativement uniforme à la fin, et voilà, quelque chose qui n'est pas pérenne sur le long terme si elle ne continue pas à être alimentée ou d'aller manger sans demander l'avis du chef le contenu pour continuer à créer.
Ce point de vue là que tu exprimes, c'est en tout cas celui qu'exprime un dénommé Strauss-Zelnick. Parce que c'est qui Strauss-Zelnick ? En fait, c'est le président d'une entreprise qui n'adopte pas la même posture que les autres. Cette entreprise, elle s'appelle Tech2. Tech2, si ça ne vous dit rien, c'est l'éditeur de mastodontes comme Grand Theft Auto, donc les GTA, les fameux, Red Dead Redemption, ou tous les NBA 2K et toute la partie 2K, de manière générale, des grands jeux de sport. Et globalement, c'est quelqu'un qui, quand il édite un jeu, globalement, l'entreprise, le secteur, l'industrie du jeu vidéo regarde dans sa direction.
Oui, que ce soit dans le domaine du sport, parce qu'ils ont quelques grandes licences de sport.
Oui, NBA 2K notamment.
Et effectivement, les jeux, les mastodontes narratifs, open world, tout ce qu'on veut, effectivement, qui sortent tous les 15 ans et qui explosent tout sur leur passage.
C'est ça. Et voilà, on parle régulièrement de, quand on parlait notamment de prix de jeu, en fait, on disait régulièrement, en fait, GTA sort au prix qu'il veut et il s'en fout. Parce qu'il est en dehors des normes et parce que c'est un jeu qui se vendra de toute façon, quoi. Et ben en fait justement dans la face au raz-de-marée de tout pour l'IA, en fait la disons que la voix du CEO de Tech2, donc Strauss Zelnick, détonne un peu parce que au micro de CNBC il y a quelques semaines, en fait, il a exprimé quelque chose d'un peu différent pour et qui suit un petit peu ce que tu viens d'exprimer. Pour lui, il est impossible d'imaginer qu'un jeu comme GTA soit conçu avec de l'intelligence artificielle telle qu'elle existe aujourd'hui, parce que la créativité, selon lui, demande de penser en dehors du cadre, là où l'IA ne fait que traiter une donnée sans véritable invention ni intuition. L'équipe de il dit aussi que l'équipe de Rockstar invente des mondes et que une IA ne fait que prédire à partir du passé. Ce que nous cherchons, c'est l'extraordinaire, l'acte créatif, pas la synthèse de ce qui a déjà été fait.
Ouais, c'est ça l'idée, quoi. De toute façon, si tu veux créer quelque chose de nouveau, bon, tu vas pouvoir créer quelque chose de nouveau à partir de choses existantes et tu vas les combiner autrement. Mais si tu veux réellement raconter des nouvelles histoires à partir de réellement de contenu original, ça va être compliqué. Ouais.
Après,
Il a un discours très nuancé.
C'est-à-dire qu'il n'est pas contre l'utilisation de l'IA, bien au contraire, et il concède notamment que l'IA peut accroître l'efficacité des studios sur certains aspects techniques et répétitifs, mais reste persuadé que aucun hit en fait ne verra le jour sans l'apport irremplaçable des humains à la manœuvre. Dans Tech2 semble refuser, pour l'instant, de confier à l'IA la direction artistique et la narration de ses titres majeurs. Bon, après, derrière le discours, la réalité est un petit peu plus contrastée, parce que récemment, sous couvert de modernisation des process, l'éditeur n'a pas hésité à licencier des centaines de salariés, dont plusieurs syndicalistes un peu trop bruyants par rapport à, notamment, entre autres, la nouvelle politique IA en interne en entreprise. Il apparaît donc qu'en matière de dialogue social, Tech2 préfère la créativité lorsqu'elle sait se taire.
C'est pas le seul, mais effectivement, oui. Ça reste intéressant, finalement, cette posture sur le côté IA comme outil, et pas IA comme remplacer des créatifs.
Après, là-dessus, il est d'accord. Là-dessus, en tout cas, sur la position sur le syndicalisme, il est totalement en accord avec Microsoft, donc il n'y a pas de souci.
Et avec... Oui, ils viennent de licencier des gens qui voulaient se syndiquer chez Tech2, enfin chez Rockstar.
Chez Rockstar, oui.
Chez Rockstar.
Donc on est chez Rockstar, donc il n'y a pas de... Tout va bien.
Bah écoute, pourquoi pas.
Non mais en même temps... En plus, c'était pas le pire, c'est que c'était... Il y avait des gens qui étaient syndiqués, mais surtout des gens qui étaient en phase de se syndiquer.
Et oui, c'était important de s'en débarrasser avant.
Voilà, non,
couper la jambe avant qu'elle soit
gangrenée. Non, faut virer les gens avant qu'ils puissent se défendre, oui.
Ben attends, ouais.
Ça paraît.
On va quand même pas laisser rentrer des. Hein,
voilà. Donc, en tout cas, derrière les slogans et donc les déclarations de Strauss Zelnick, il y a toujours un certain sens du pragmatisme économique ou, comme on dirait plutôt ici, du cynisme industriel.
Oui. La base.
Et donc. On a vu Microsoft, on a vu Tech2, donc Rockstar, tout ça. Il y a des news qui viennent d'aujourd'hui.
Oui, mais qui viennent de l'autre côté du monde.
Voilà, et donc je ne peux pas ne pas mentionner le choix radical de Square Enix.
Tout à fait.
Square Enix, c'est, selon moi, alors peut-être tu ne seras pas d'accord, mais le plus célèbre éditeur japonais d'un point de vue historique en tout cas.
C'est sûr qu'ils ont des licences monstrueuses, et principalement Final Fantasy.
Final Fantasy, Dragon Quest.
Dragon Quest aussi.
Alors, Dragon Quest, c'est plus... c'est Final plus Fantasy à l'international. Ouais. Dragon Quest est une gigantesque institution, rien qu'au Japon.
Tout à fait.
Et on ne mesure pas à quel point c'est une institution, d'ailleurs, au Japon. C'est la folie. Et voilà. Selon un récent... article de Rogamer, et quand je dis récent, c'est d'aujourd'hui.
Oui, c'est de tout à l'heure.
Voilà.
Je crois que je suis rentré du boulot, j'ai vu l'article, je te l'ai envoyé. On s'est dit, mais attends, laissez-nous le temps de bosser quand même.
Et j'ai fait, je m'en occupe.
L'émission, c'est ce soir, merde. Faites un effort.
Et voilà, donc Square Enix, donc célèbre éditeur japonais, vient d'annoncer vouloir automatiser 70% de ses tâches de contrôle qualité et de débogage grâce à l'IA générative d'ici 2027. On reparlera de ça.
Oui, parce que tu me disais l'autre jour, de façon, les gens qui font la quality assurance, c'est pas des développeurs.
Alors oui, bah on a bien vu quand on parlait de Bolu Pit. Bon allez. En tout cas, c'est l'avis d'IGN.
Et de Jeff qui dit. C'est pas la question.
Donc
ils veulent remplacer donc cette activité là par de l'IA.
C'est ça.
Globalement.
Voilà, plutôt que ce soit des gens qui fassent la partie contrôle qualité, test, savoir le test et le débogage, que ce soit une IA qui le fasse. On attend les premiers résultats.
Il y a moyen que ce soit rigolo.
Avec impatience.
Il y a moyen que ce soit rigolo.
Alors, après, je suis obligé de dire, et soyons clairs, c'est aussi le ton de l'article en question, que après avoir tenté sa chance dans le métaverse et avec les NFT, avec des résultats, comment dire,
discutables,
mitigés.
Comme à peu près toutes les entreprises.
Ouais, voilà, non, ça s'est cassé la gueule. Square Enix fait aujourd'hui le pari que l'intelligence artificielle pourra révolutionner sa chaîne de production. Exit les armées de testeurs, place un partenariat avec de recherche, avec le laboratoire Matsuo Iwasawa de l'université de Tokyo pour mettre en place des outils capables d'analyser et de corriger automatiquement la majeure partie des bugs. Plus de 10 chercheurs et ingénieurs sont déjà mobilisés pour améliorer l'efficacité du développement vidéoludique avec un objectif, instaurer un avantage concurrentiel en industrialisant la pratique de la quality assurance, donc de l'assurance qualité, via l'intelligence artificielle. Ce choix a été accueilli plutôt froidement par les testeurs.
c'est des gens, ils n'aiment pas le bonheur.
Oui, voilà.
Je pense que je vois que ça.
Non, mais ils n'aiment pas le progrès.
Ils n'aiment pas le progrès, donc ils veulent retourner à la bougie. Je crois que c'est ça l'idée générale derrière le revenu. Pardon, vas-y. Ce qui était rigolo, c'est qu'effectivement, Square Enix, il y a genre cette semaine, a dit gentiment à OpenAI, donc avec son nouveau système de développement de vidéos, donc Sora 2 spécifiquement, qui peut générer donc des vidéos à partir de prompts, à partir de texte que tu lui demandes, a demandé donc gentiment à OpenAI d'arrêter en fait de générer des vidéos à partir de leur propre contenu en fait. Et Square Enix a dit non, on veut pas que vous créez des trucs à partir de notre contenu. Parce que c'est fait par IA et que vous n'avez pas d'autorisation et que vous prenez en gros notre contenu pour faire des trucs sans notre accord. C'est rigolo de les voir ensuite derrière vouloir pousser pour l'IA.
Oui, mais
c'est pas la même utilisation.
Non, mais on est d'accord. Là, leur argument, ça va être que là, c'est pour de la création pour Sora 2, oui. Et que là, en fait, c'est pas des trucs de la correction de bug.
C'est pas de l'outil.
C'est la correction de bug, c'est pas de la création. Créatif. Et pour être moi-même dans l'informatique, dans le développement et dans les projets informatiques. Je suis pas en accord avec ça du tout. Vu des fois que pour corriger certains bugs, il faut de la vraie créativité. Mais bon, on verra ça plus tard.
Il faut être un artiste, un véritable artiste.
On verra ça plus tard.
Mais c'était rigolo comme de. Ouais. Enfin, tu vois.
Non, mais je comprends, mais évidemment.
Côté, non, utilisez pas. Hein, mais nous, oui, ça va. Nous, ça va.
Effectivement, donc en fait, les testeurs actuels de chez Square Enix ont posé la question de la limite de la détection automatisée de bugs. Ah, oui, parce que on peut
ça arrête tout notre travail.
En fait, on détecte de manière automatisée les bugs, mais il y a certains bugs qui ne pourront être remarqués que par des humains.
Oui, parce qu'ils vont être provoqués. Il faut vraiment s'en rendre compte, en fait, tout simplement que c'est un bug, parce que tu peux avoir en fait des comportements qui sont pas forcément faux en termes de géologie logicielle, mais qui peuvent être clairement un vrai problème en tant que joueur du gameplay ou ce que tu veux.
Il y a des problèmes qui sont en fait de l'ordre de l'usage.
Voilà.
En fait, et qui seront pas des bugs entre guillemets informatiques, mais des bugs d'usage où on va dire en termes mécaniques c'est normal que ça fasse ça, sauf que en fait d'un point de vue utilisation du jeu, ça crée un inconfort ou ça crée une problématique au niveau du jeu. Donc c'est ça qui va être un peu compliqué à gérer, mais on fait confiance donc au laboratoire Matsuo Iwasawa pour que ça marche au mieux. Il y a aussi, en fait, forcément, il y a cette question-là, et puis il y a évidemment la question du devenir des métiers de vérification, souvent considérés comme répétitifs, mais essentiels pour repérer, en fait, les vrais défauts et garantir la qualité des jeux.
Et donc, la qualité des jeux qui sortent avec des patchs day one, day two, une semaine après la sortie du jeu.
Oui. Voilà. Alors, le truc, c'est que, après, en fait, quand on parle de Square Enix, on parle forcément, oui, les grands jeux premium, c'est-à-dire payants, les Dragon Quest, les Final Fantasy. Mm-hmm. Mais Square Enix, ce qui leur apporte avant tout de l'argent, c'est ce qu'on appelle les gachas. Donc, ce sont des jeux mobiles de qualité beaucoup plus faible et avec un aspect ludique relativement faible et qui est lié, qui plus ressemble plus à des machines à sous que à des jeux vidéo.
Avec des mécanismes, on va dire, quasiment psychologiques, voilà, de rétention et de l'attention et de motiver à remettre du pognon dedans.
Et je pense que c'est plutôt là-dessus qu'ils vont entraîner ces mécaniques-là plutôt que sur leur jeu premium qui demande forcément plus d'attention au niveau de la QA.
Tu penses qu'il y aura vraiment une division, j'ai envie de dire, de la créativité vers les jeux, en tout cas, mais qui sont déjà finalement établis, pour lesquels on les connaît, et derrière le reste qui vraiment est la vache à lait.
Alors pour l'instant,
qui finance le tout,
alors,
de façon
c'est
moins...
totalement une spéculation de
D'accord.
ma part.
Okay, attention, ouais, pas de soucis,
c'est
pas de
totalement
soucis.
Une spéculation de ma part, mais ouais. En fait c'est juste, ça me paraît plus logique.
Ouais, de mettre l'argent là où tu rapportes, quoi. Enfin,
voilà,
là, ça
c'est ça. Exactement, là, parce que ça ils en produisent de façon industrielle, là où, et surtout que il y a les retours des joueurs sont beaucoup plus de est-ce que ma machine à sous elle fonctionne plutôt que, attends, ce jeu-là, il est mieux que tel autre jeu.
Oui, on n'est pas dans les mêmes objectifs, etc.
C'est
Et
ça.
Puis, je pense qu'il y a plus un côté prestige.
Oui, bien sûr.
Sur ces jeux-là, enfin, sur les licences dont tu parlais.
C'est ça.
Bien plus que, finalement, ce qu'ils leur rapportent au quotidien.
Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Surtout que les derniers jeux Final Fantasy, par exemple, les remakes fonctionnent bien. Par contre, Final Fantasy XVI a beaucoup moins bien marché. Donc voilà.
Oui,
on peut
c'est...
se demander si ce sont des investissements sur lesquels ils veulent que ça leur rapporte beaucoup d'argent ou si ils ont plutôt un objectif de rapport et d'investissement beaucoup plus réduit sur des projets beaucoup plus petits, les reprises de Crisis Core, etc., qui sont des jeux mobiles qui rapportent beaucoup plus et qui demandent beaucoup moins de moyens. En tout cas, tout ça, c'est une nouvelle étape dans la course à l'IA, qui intervient quelques années après l'engouement donc de Square Enix dans les NFT et dans le métaverse. On l'espère, en fait, pour eux, le même succès.
Voilà. C'est pas gentil.
Non. C'est pas gentil, mais en même temps,
c'est pas quand très charitable.
Quand tu continues à merder, tu continues à merder.
Oui, moi j'ai envie de répondre. C'est pas nous qui avons commencé.
Voilà, c'est clair. Avant de te laisser la main.
Oui, il me semble qu'il y en a un petit dernier, non?
Je dois terminer par le plus gros client. Enfin, techniquement, le plus gros client, ça reste Microsoft de
oui,
loin.
Oui.
Mais le client, on va dire, qui aime bien qu'on les tape parce qu'il donne beaucoup le bâton ces derniers temps.
Bah oui, et puis en plus, il s'associe avec des gens déjà qui attirent les coups.
Voilà, donc c'est Electronic Arts, hein. Ouais. Obligé.
On a fait une émission entière, il y a quoi, il y a 3 semaines, 1 mois dessus?
C'est ça, oui, le 2 octobre, en fait. Une émission qu'on a fait le 2 octobre, une émission généreusement hébergée par nos amis de Presse F5 qu'on remercie.
Et sur laquelle donc, vous pouvez retrouver le replay de cette émission et des précédentes d'ailleurs.
Voilà, le nerdelagame.pressef5.fr. Donc Electronic Arts, qui est donc sans conteste une des plus grandes boîtes du jeu vidéo mondial, avec ses séries notamment en FIFA, enfin IFC, Madden, NFL, Battlefield récemment,
oui, qui a très très bien marché.
Voilà, ou les Sims.
Oui, aussi.
Voilà.
Et puis des trucs un peu plus niche, mais malgré tout extrêmement prestigieux.
Oui.
Comme la série des Dragon Age ou la série des Mass Effect.
Tous les jeux BioWare, effectivement.
Qui fait partie du groupe.
C'est ça. Et donc, qui est récemment passé sous pavillon saoudien grâce à Jared Kushner, donc le gendre du président Trump. Une fois de
Alors,
plus.
C'est en cours. Officiellement, c'est pas encore fait. Ce sera fait normalement avant la fin du l'année fiscale 2025.
C'est vrai que
officiellement.
Non, mais c'est vrai que
c'est encore normalement ça doit encore passer devant la FTC puis devant.
Oui, non, mais évidemment.
Qui dira non au gendre de Trump ? Absolument personne.
Voilà.
Mais officiellement, ça doit encore être validé.
Oui, en plus, la dernière personne qui était à la FCC et qui aurait pu essayer de lutter contre ça, Lina Khan, elle est adjointe au maire à New York.
Ah, c'est intéressant. Depuis aujourd'hui.
Oui. Je suis.
Très bien.
Voilà, adjointe au maire, Mme Dany.
Tu te retiens de dire certains mots. Un assemblement de mots.
Voilà. Ce qui se passe, c'est que donc Electronic Arts a noué cet automne un partenariat structurant avec Stability AI, donc un pionnier de la génération d'images et de médias par intelligence artificielle.
Stable Diffusion, spécifiquement, qui est peut-être le plus connu effectivement de leurs produits.
C'est ça. L'objectif officiel, c'est d'offrir de nouveaux outils aux artistes, aux concepteurs et aux développeurs de Electronic Arts, pour transformer le processus créatif. Je cite. Attention, je cite à partir du moment.
Vas-y.
Accélérer les itérations, élargir le champ des possibles, libérer plus de temps pour se consacrer aux idées qui comptent vraiment. Et là, ça rejoint une interview qui avait été faite il y a quelques temps du côté de Dontnod.
Mm-hmm.
C'était chez Dontnod ou c'était chez Dontnod qui défendait l'utilisation de l'IA en disant que arrêter de faire des brins d'herbe et puis ils vont arrêter d'animer des vêtements et puis arrêter de faire des brins d'herbe et animer des vêtements à la place.
Oui.
C'est bien
okay.
Toi.
Ouais.
Bah on est dans ce trip là.
D'accord. Je trouve que c'est beaucoup de mots pour dire on va licencier. Moi je trouve que c'est quand même prendre du temps pour passer à côté de l'essentiel.
Mais enfin j'espère que je sais pas si tu te souviens de ces interviews.
Oui, je me souviens de ça. Ouais. Et j'avais plus en tête que c'était Dontnod.
Il me semble que c'est Dontnod. Non, je sais que c'est une entreprise française.
Oui, mais justement
je suis plus sûr que c'est Dontnod.
En fait, j'avais Anne Desvoisou en tête. Je sais pas pourquoi.
Mais je sais.
Parce qu'elle est toujours quelque part dans ses bons plans.
J'ai tenté franchement, c'est pas elle. Je me souviens que c'était pas elle spécifiquement, que c'était quelqu'un. Non, je me souviens si que ça avait gueulé et que les gens chez Dontnod avaient un peu pété un plomb parce que c'était quelqu'un qui clairement connaissait pas le process. Voilà.
Ok. Donc qui avait un regard très très mécanique sur qu'est-ce que c'est le travail d'un. Mais c'est le même discours sur les gens qui disent regardez, avec l'IA, on va éliminer les gens qui font un boulot qui est pas très intéressant pour que les graphistes ils se concentrent sur les trucs les plus intéressants.
Bon. Non, mais de toute façon, tu fais de l'informatique, tu peux réparer mon imprimante.
Mais alors, ni l'un ni l'autre, personnellement, ne regarde pas comme ça.
Mais bon, tu vois ce que je veux dire.
Moi, si tu veux, si je vois une fenêtre, je vois l'imprimante, je peux la faire passer par la fenêtre, mais c'est à peu près tout ce que je sais faire.
En tout cas, ça, évidemment, ça c'est le communiqué officiel côté Electronic Arts. Mm-hmm. Côté Stability AI, la promesse est de faire collaborer ses chercheurs.
J'aime ce terme. Vas-y, continue.
Collaborer ses chercheurs et ses modeleurs IA directement avec les équipes de Electronic Arts afin de, je cite, révolutionner la génération d'environnements 3D, de personnages, d'assets visuels et plus encore, ainsi de façonner l'avenir du développement vidéoludique.
J'entends toujours licencier des gens, je sais pas pourquoi. Il y a un truc, il y a un problème dans le, tu vois, entre toi et moi là dans le micro, je pense que ça vient de la radio.
Sauf que si on regarde un récent article de Business Insider, on s'aperçoit que la réalité quotidienne de cette intégration de l'IA se révèle légèrement plus laborieuse que prévu.
Parce que ça fait un peu plus longtemps qu'elle est en cours.
Voilà, c'est-à-dire que
il y a eu les déclarations récentes, mais chez
en gros, le partenariat a été annoncé en octobre, l'existence de Reef GPT, donc le chatbot IA maison. Il est là depuis le début de l'année.
Mmh.
Donc, et cette utilisation, elle fait débat en interne parce que officiellement, ça a été promu comme un, je cite, partenaire de réflexion pour le développement des jeux.
Ok.
Voilà.
J'arrête, je commande plus.
Reef GPT, en fait, donc.
Mais avec le terme, non, pardon, vas-y.
Oui, mais Reef GPT, vous avez fini, oui.
C'est pas moi qui commence.
Je trive extrêmement médiocre. Donc RiveGPT en fait concentre depuis un an les critiques des salariés à cause de la génération de code défectueux, à cause d'hallucinations, c'est-à-dire qu'il va générer du code qui vient de nulle part. Et il dit non, mais ça a toujours été là, t'inquiète. Et surtout la multiplication de travail correctif pour des équipes qui fait perdre un temps immense. Plusieurs témoignages donc rapportés par Business Insider et qui sont encore trouvables aujourd'hui sur LinkedIn et sur le Slack interne pointent des décalages entre la doctrine techno-optimiste de la hiérarchie et la réalité du terrain. La citation que je préfère, c'est « On passe plus de temps à réparer les erreurs de RiveGPT qu'à produire des features innovantes. »
Est-ce que c'était pas l'inverse, le projet ?
Tu te tais. Voilà.
Ça y est, je suis viré. Encore une victime de l'IA.
Mais je pense qu'en fait, le pire dans cette histoire, c'est le nombre de scénariés en fait, qui craignent de participer en corrigeant et en alimentant le modèle à leur propre remplacement, exactement comme on avait vu chez King il y a 3 mois de ça. Mm-hmm.
Oui, ou alors tout simplement finalement que leur rôle ne se contente de devenir effectivement de la correction.
C'est ça.
Comme il le disait en fait, enfin, ça peut être aussi une façon de dégrader le travail et de dégrader finalement les compétences et leurs responsabilités.
Mm. Sachant que en interne les démissions aussi se multiplient, surtout côté développement et côté QA, et que en plus entre la menace en fait de licenciement n'est pas qu'une simple menace, vu que entre janvier 2024 et aujourd'hui Electronic Arts a supprimé plus de 1000 postes, certains collaborateurs liant directement à cette vague de licenciement l'obligation faite d'utiliser l'IA sur tous les projets sans réelle évaluation de son efficacité.
Oui, on impose d'abord et on se posera la question plus tard si réellement ça fonctionne.
C'est ça.
Ce qui est toujours une très très bonne idée dans l'industrie, quelle qu'elle soit.
Donc voilà, j'ai fait le tour des géants.
Ok.
Voilà.
Okay,
qui, dans l'ensemble, de façon claire, à quelques exceptions près, voit l'utilisation de l'intelligence artificielle à minima comme une promesse de l'accélération de la production, tech tout compris, à quelques nuances près. Hein. Mais qu'est-ce qu'il en est des moins géants?
Alors,
est-ce que par quoi tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer par Krafton ou tu veux commencer par autre chose?
Alors, j'avais commencé par Krafton.
Allons.
Effectivement, je pense que c'est dans l'ordre de taille.
parce que
Krafton, c'est pas rien. C'est principalement l'éditeur de PUBG, donc PlayerUnknown's Battlegrounds, donc on va dire le père du Battle Royale, avant qu'il entraîne Fortnite dans sa roue, et que ensemble ils se partagent des milliards.
C'est ça, et que sachant que le PUBG, c'est aussi par sa version mobile.
Oui.
Qui est extrêmement joué, notamment en Asie,
tout à fait.
Que Krafton entasse les milliards.
C'est ça, et qui gagne d'autant plus d'argent depuis que le jeu est passé en version free-to-play, c'est-à-dire gratuite avec du contenu à payer dedans.
C'est ça.
Et qui a été un vrai shift aussi, parce qu'à la base, le jeu était payant.
Voilà. Krafton, donc, qui est aussi l'éditeur d'un jeu qui s'appelle Inzoï.
Oui, hein? C'est ça, qui est sorti il y a quoi? Il y a 6 mois?
Il y a 6 mois de ça, peut-être un peu moins que ça, il me semble.
Ouais,
parce qu'en fait, il y a eu une bêta avant et tout ça, voilà. Et Inzoï qui est en gros une sorte de Sims, c'est-à-dire un simulateur de vie où en fait, on va prendre des personnages, on va les faire vivre un peu comme une maison de poupées géante, en gros. La différence principale avec Sims, c'est que globalement tous les portraits et tous les personnages sont faits par IA et c'est clair, net, précis, visible de loin,
oui.
Et que tous les comportements déviants possibles et imaginables ne sont pas que possibles, ils sont fortement encouragés.
En tout cas, ils sont présents, ils sont pas du tout limités, effectivement, et donc on a pu avoir
des dingueries.
Ah oui, des dingueries, oui, de la violence conjugale, enfin, bref. Inzoï, quoi.
Inzoï.
Mais donc Krafton, voilà. Qu'on connaît aussi, parce qu'on en a parlé.
Inzoï qui a un gros succès, soit disant pas.
Oui, Inzoï, ça a pas trop mal marché.
En Asie.
En Asie, effectivement. Oui, ça c'est un peu. Ça a été moins efficace par ici, mais.
Bof.
Enfin, dans l'Occident de façon globale. Mais en tout cas, il y a eu effectivement une déclaration très, très récente là, de Krafton. Et au final, c'est ce qu'on disait, en fait. Cette multiplication de déclarations récentes qui ont fait finalement que cette émission est là-dessus, et ça en fait partie clairement, cette déclaration donc de faire de Crafton, qui a annoncé donc aujourd'hui, alors c'était aujourd'hui, c'était quand, le 23 octobre, donc c'était quand même il y a une dizaine de jours.
C'était il n'y a pas si longtemps. De toute façon, c'est la plupart 23, des choses dont j'ai parlé, à part King qui date de juillet, oui. Globalement tout le reste, il n'y a pas plus de 3 semaines.
Oui, c'est ça. C'est globalement depuis début octobre, grand minimum. Donc ils ont annoncé vouloir transformer l'entreprise en une AI first company. Donc en gros, l'IA d'abord, l'IA en premier, l'IA devant nous et l'IA tout autour de nous. Donc voilà, placer l'IA au centre de la façon de régler les problèmes, complète réorganisation de l'organisation du développement et des systèmes de développement, en fait, tout simplement.
Comment ils ont détaillé ça? Parce que, en fait, il y a une première annonce comme quoi on va être AI first, et après, ils ont un peu détaillé l'histoire.
Oui, ils ont un petit peu détaillé l'histoire dans leur déclaration d'hier. Sur, en fait, c'est leur non, d'avant-hier. En gros, c'est la déclaration fiscale entre guillemets, enfin je ne sais plus exactement ce que ça donne en termes de timing, mais bref, tous les 3 mois je crois ils font une déclaration un petit peu de leurs revenus, là où ils en sont, etc. Et ils avaient effectivement un petit peu plus détaillé tout ça, mais globalement le projet c'était de dépenser 100 millions de won coréens, donc environ 69 millions de dollars. Ce qui, comme tu disais tout à l'heure, en fait les place un petit peu dans les moins gros,
parce que c'est pas tant. Jusqu'à présent toutes les boîtes dont j'ai parlé peuvent investir littéralement des milliards.
Voilà. Là, on
que
était
ce soit
sur un
EA,
peu
Take-Two, Microsoft, même Square Enix peut investir des milliards. Clairement.
Alors, Crafton, ils ont, je pense, aussi un sacré trésor de guerre. Oui. Là, spécifiquement, en tout
ils
cas.
Ils sont arrivés il y a moins longtemps, donc il y a
moins. Oui, je pense qu'il y a aussi. Ils ont moins cumulé. Et puis, ils financent des trucs aussi. Ils ont quand même un certain nombre de produits, de projets en cours depuis quelques années. Donc, ils amassent pas le pognon, en fait ils dorment pas sur le pognon.
Oui, que ça, le développement de Subnautica 2 commence à prendre du temps et coûter de l'argent.
Subnautica 2, pour plusieurs dizaines ou voire centaines de millions.
Voilà, et puis comme comme je le disais, ça commence à prendre du temps, tout ça, ça coûte de l'argent.
Tout à fait.
Et surtout en indemnité de licenciement de patron, de studio.
Oui,
ça commence à coûter cher.
En tout cas, ils ont effectivement décidé de dépenser beaucoup d'argent, principalement donc pour développer des outils IA pour les aider dans le quotidien finalement. Donc vraiment, c'est centrer l'opportunité de croissance à travers l'IA. Bref, c'est des termes tellement tellement vides de sens d'une certaine façon. C'est les mêmes phrases que tu as citées tout à l'heure. C'est un petit peu cette approche-là globalement que le CEO de Crafton, Kim Chang-han, a donné finalement dans que ce soit dans les différentes interviews officielles ou les supports internes finalement pour parler de tout ça. Bon, c'est comme tu disais, en fait, le fait qu'ils aient développé, en tout cas financé le développement de InZOI nous surprend pas finalement de leur positionnement à ce niveau-là finalement dans l'IA. Certains articles en fait commençaient par rappeler finalement quelque chose qui s'est passé quasiment au même moment, parce que c'est pas inintéressant en fait d'aller des deux côtés du spectre. Encore une fois, on va un peu plus du côté, on va dire, des semi-indés ou des double A, ou en tout cas des gens qui ont de l'argent mais qui sont pas du même niveau que ceux que tu as cités tout à l'heure, avec notamment, par exemple, les déclarations de Pocket Pair.
Oui, de toute façon, en fait, c'est le but aussi de l'émission, c'était pas que de voir uniquement les gros, mais aussi de voir le sentiment dans l'industrie de manière générale. Ouais. Et on est une émission qui est bien placée pour savoir que l'industrie, c'est pas uniquement les gros, c'est aussi beaucoup les autres, en gros, la longue traîne, comme on dit, qui fait vivre cette industrie aussi. Et par sa créativité et par la création de jeux, tout simplement.
C'est ça. Et autant Crafton, donc on peut les classer du côté des gros que tu as cité tout à l'heure, que ce soit au niveau des investissements et au niveau de l'objectif de la déclaration. Autant Pocket Pair, on a pu... Alors Pocket Pair, donc c'est...
On les a classés dans les petits cons quand même.
Pendant longtemps. en fait, Pocket Pair, ils ont cette réputation parce qu'ils sont arrivés sur le marché il y a quoi? Il y a quelques années maintenant, mais réellement, ils ont décollé en début janvier 2024 avec un jeu qui s'appelait Palworld qui est arrivé, qui est globalement un gros plagiat de Pokémon.
C'est
avec des flingues.
C'est un Pokémon avec des flingues et avec des mécaniques légèrement différentes, mais le visuellement, c'est Pokémon.
Voilà, on est vraiment dans cette démarche-là, en fait.
À un point que c'est à se demander.
Les multi aussi. Enfin, tu vois, il y a quelques petites différences. En fait, on est aussi dans un jeu, dans les jeux un peu à la Rust, à la Valheim, où les gens jouent ensemble et se créent leur propre base, etc. Sauf que les Pokémon, entre guillemets, qu'on va capturer, bah, ils sont là pour nous aider à travailler. Capitalisme, tout ce que tu veux.
Voilà.
Y avait déjà eu à l'époque d'ailleurs entre les accusations de plagiat, que ce soit des designs, des créatures, du concept même de se battre, enfin, à travers des créatures qu'on a capturées, qui est globalement l'esclavagisme qui est au cœur finalement du concept de Pokémon, rappelons-le.
Oui. La collaboration entre les hommes et
volontaire, absolument volontaire, bien évidemment. Dis donc, Sacha. Bon. Voilà. Non, plus précisément, en fait, Pocket Pair a vendu des millions, clairement, de jeux, a rapporté des millions de dollars. Ce studio japonais, qui est donc arrivé de. Oui, japonais.
Oui, oui. Pocket Pair, surtout, qui est connu pour faire des doigts d'honneur immenses à Nintendo depuis le début, en disant vous allez faire quoi ?
Voilà, c'est ça.
Vraiment.
Allez, venez, faites-nous des procès.
Ce que pas beaucoup de boîtes dans le jeu vidéo peuvent se permettre d'avoir dit et fait.
Et être encore vivant un an
après.
Ah ouais,
clairement, parce que.
Mais pour l'instant, on attend toujours le vrai move de Nintendo sur le sujet. Bon,
c'est pas
la question. La question, c'est que effectivement, Pocket Pair a ramassé énormément d'argent depuis donc janvier 2024 et récemment, milieu de l'année, mars, avril,
je sais plus exactement ils ont fait exactement ce qu'avaient fait les gens qui ont fait Among Us, donc Inner Sloth, et ils ont fait ils ont fait un fonds d'édition où ils disent on veut publier des jeux.
Voilà, et donc ils en ont déjà publié quelques-uns d'ailleurs.
Voilà.
Et très récemment, donc vraiment là, en même temps finalement que toutes ces déclarations, ils ont dit en gros, si globalement vous voulez faire des jeux avec de l'IA à fond dedans, ou du Web3 ou des NFT, mais ça je pense que ça concerne quasiment plus personne.
Voilà.
Mais c'est dans la même phrase.
Si vous voulez faire des jeux comme M Square Enix, cassez-vous.
Voilà, ils ont dit clairement, ils ont dit plus précisément, il y a beaucoup d'éditeurs qui seraient sûrement très intéressés par votre contenu, mais nous non. On n'est pas le bon partenaire pour ça, donc bah, venez pas nous voir avec des projets alimentés par de l'IA.
Ce qui est une position
très intéressante.
Intéressante et presque surprenante. Inattendue. Parce que pour le coup, avec
comme on dit,
les.
Il y a eu des vraies accusations à l'époque.
Il y a eu des vraies accusations, pas seulement d'utilisation d'IA, de plagiat, etc. Et surtout, des réponses de la part du CEO de Pocket Pair qui était à base de allez vous faire foutre, j'en fais bien ce qu'on veut. Non, mais vraiment.
C'est vrai. Non, mais complètement.
Donc,
est-ce que c'est un changement de vision? Est-ce que c'est vraiment la division Pocket Pair Publishing qui est suffisamment séparée finalement de Pocket Pair au niveau de développement pour avoir un avis différent sur l'utilisation de leur pognon? Très bonne question.
Mais en tout cas, c'est intéressant parce que pour le coup, alors sans l'avoir dit, clairement Outer Slot a le même positionnement.
Oui, bien évidemment.
Complètement. Mais je préfère
ils sont même pas dit qu'ils avaient besoin de le dire.
Oui, voilà.
Clairement.
Mais clairement, enfin, de toute façon, on a vu les différents jeux, etc.
La politique, l'état d'esprit, l'éthique qui va derrière, bien évidemment. Mais alors, il nous reste pas tant de temps.
Alors, je pense qu'on n'a pas le temps pour Ark Raiders. Néanmoins.
Non, mais c'est quand même intéressant de l'évoquer, vite fait. Ouais. Parce que je voulais juste évoquer une chose, c'est que, effectivement, Ark Raiders, on parlait d'outils, on parlait de génération de contenu directement avec de l'IA, comme les images et les vidéos, comme on a pu le voir, ce genre de choses. On a beaucoup parlé ici aussi même des voix. Utilisation de l'IA pour fabriquer des voix et du discours dans les jeux, notamment à travers l'histoire de François Scadol et du doublage du dernier Tomb Raider, des remasters de Tomb Raider.
On rappelle aussi l'histoire du doublage de Apex Legends,
oui, tout à fait.
Où les doubleurs français en fait ont refusé de reprendre leur rôle parce que pour reprendre leur rôle,
tu
signes pour qu'on puisse tout refaire
en IA derrière.
On rappellera que Apex Legends est un jeu Electronic Arts.
Parce que sinon c'est pas drôle. Ça serait quand même dommage de pas se mordre la nuque quand on est un serpent suffisamment gros.
Non mais bon, voilà quoi.
Du coup, donc Ark Raiders qui a toujours déclaré, en tout cas utilisé de l'IA pour ses processus internes et ses logiciels internes de développement, mais a réfuté très récemment encore l'utilisation d'images et de contenus générés par IA dans le jeu. Maintenant, tout devient un petit peu plus compliqué quand tu dis on n'utilise pas d'IA pour générer du contenu, mais nos outils dans nos outils, etc. On a intégré l'IA déjà dedans depuis le début, et on a aussi travaillé avec des gens pour faire les voix qui sont dans le jeu, des acteurs de doublage, avec qui on a signé aussi des deals pour que derrière on puisse utiliser leur voix pour créer des phrases à partir de leur voix de base.
Sachant
qu'il y a des outils, sachant que c'est ça ce qu'ils avaient fait.
Sur leur précédent jeu, donc le studio de Ark Raider, c'est Embark, qui fait partie de Nexon, qui est une très grosse boîte aussi.
Oui. Coréenne.
Coréenne, oui. Mm. Une très grosse boîte aussi.
Embark est suédois.
Oui, voilà.
Mais
Embark est suédois, mais Nexon est coréen. Oui. Et sur le jeu qui les a rendus connus, donc The Finals a été notamment connu parce que
il y avait la même logique finalement. Ils avaient pris des voix de base et puis derrière ils avaient développé finalement avec l'IA des phrases pour adapter au contexte.
C'est ça.
Adapter au contexte du jeu, de ce qui se passait dans le jeu.
Voilà, c'était un jeu qui faisait très émission télévisée. Mmh. Et lorsque tu crées ton équipe, tu avais un nom d'équipe qui était dit automatiquement par une voix, par une voix existante.
Et qui l'intégrait finalement dans les actions. Par exemple, telle équipe est en train de gagner, telle équipe a fait telle action, etc. Donc c'était généré. Enfin, il y avait une base des voix qui avaient été payées pour. Mais derrière, il avait le deal pour utiliser les voix de cette façon. Donc, Ark Raider,
c'est... Est-ce que ce deal est légal? On n'en sait rien. En vrai, on n'en sait rien, tu vois.
Mais c'est vrai que localement, on ne connaît pas les règles, on ne connaît pas les lois, qui étaient les gens, etc.
Techniquement, on n'en sait rien.
C'est une bonne question. Mais dans l'état actuel des choses, ce jeu Ark Raider s'est sorti le 30 octobre, donc jeudi dernier, et un énorme carton. Personnellement, j'y ai joué pendant les versions de test, bêta-test.
Vendu.
Et j'ai rien à redire sur la qualité du gameplay et de la proposition, mais la question réellement, effectivement, est intéressante sur, finalement, où est la limite que, même personnellement, je suis prêt à accepter là-dedans, en fait. On peut passer rapidement, parce qu'il nous reste que très peu de temps, sur, par exemple, un projet que peut-être qui parlera peut-être un petit peu plus ancien d'entre nous.
Baphomet ?
Ouais, les Chevaliers de Baphomet, donc c'est le studio Revolution Software.
Les trois remasters de Baphomet. De Broken Sword,
c'était pas les premières versions, mais les toutes dernières versions, ils les ont appelées Reforged.
Ouais, c'est vrai.
Et la Reforged du premier, finalement, celui qu'on a connu. Alors, les Broken Sword, c'est le nom anglais. Là, en France, on les a connus sous le nom. Donc, le premier, c'était les Chevaliers de Baphomet. Le deuxième, c'était les Boucliers de Quetzalcoatl.
Ouais.
Et ensuite, finalement, les jeux d'après, aucun intérêt, on s'en fout, parce qu'ils étaient pas bons. Et donc, pour le premier, ils avaient utilisé une IA, ils avaient alimenté une IA interne, finalement, des outils internes, à partir de leur propre dessin. Globalement, l'idée, c'était, on a toujours les mêmes artistes.
On fait le upscale.
On fait la modernisation, finalement, des graphismes via l'IA de façon complètement interne, en ne prenant rien qui vient de l'extérieur. Et pour faciliter finalement le travail, sans léser personne, sans licencier qui que ce soit pour faire le boulot, c'était leur approche, c'était leur discours. Et de cette façon, je peux comprendre la démarche, même au niveau, expérimental. Je peux comprendre, comment ça marche, comment ça se passe, etc. Au moins, ils n'allaient pas voler le travail d'autres gens, ni licencier des gens pour le faire à leur place.
Et puis,
c'était déjà un début.
Et puis, il faut voir aussi la taille de l'équipe en question.
C'est un petit studio britannique. C'est pas beaucoup de gens, finalement.
Pour coup, quand tu regardais les crédits, t'avais 15-20 personnes à tout péter. Hein.
Et ce qui est intéressant, c'est que donc ils ont fait le Reforge, donc le remake du remaster, parce qu'ils avaient déjà fait un remaster.
C'est compliqué.
Le jeu d'origine est de 96 quand même.
Oui.
Ils l'ont sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, au courant 2024. Et donc ils avaient l'intention évidemment de faire la même chose, de faire le même traitement sur les boucliers de Quetzalcoatl, donc Broken Sword 2, qu'on a connu en France, je crois, en 97. Et en fait, ils ont déclaré, on l'a fait pour le premier, comme on l'avait dit. On s'est rendu compte, que le résultat, il est pas ouf. Que ça nous a pris du temps, que ça nous a coûté du pognon, que le résultat, il valait pas le coup. Donc pour exactement le même travail, c'est-à-dire la modernisation...
Autant refaire redessiner...
autant le faire nous-mêmes, etc., à partir de nous. Et on s'est dit, on n'utilise plus l'IA parce que le résultat, il nous convient pas.
Pour l'instant. Ouais.
Pour l'instant. Mais c'est intéressant de voir des gens qui ont essayé. Tu vois, on a essayé, on sait ce que c'est, mais non. On ne l'utilisera pas parce qu'on n'est pas d'accord. Enfin, on n'est pas convaincu par le résultat. On a très rapidement un des énormes succès sur Kickstarter parce qu'il est en train de tout péter. Un jeu Starfinder Afterlight, un jeu de rôle basé sur l'univers de Starfinder, qui est un univers de jeu de rôle qui peut être connu, je pense, par les spécialistes, mais peut-être que vous connaissez Pathfinder, qui est la version Heroic Fantasy. Starfinder, c'est la version évidemment spatiale science-fiction, du même globalement le même univers. Starfinder Afterlight, donc, qui est actuellement, qui avait demandé 75 000 $ sur Kickstarter et qui est à 750 000 $ de récolter.
Ça se passe bien.
Ah bah, il reste quelques semaines encore. Hein, le projet est loin d'être fini. La campagne est très loin d'être finie. Bref, ces gens-là, donc, qui développent ce jeu de rôle pour PC, ont déclaré relativement récemment un petit peu ce que déclarait finalement Strauss Zelnick, c'est-à-dire que pour eux, le côté créatif, il ne viendra pas de l'IA. Parce que elle est pas capable. Ils auraient bien, enfin, pour eux, l'IA aurait pu avoir un intérêt dans la discussion s'il venait faire des choses que personne n'a envie de faire. S'il fait ta lessive et qu'il fait le ménage chez toi, pendant que toi, tu peux t'occuper des choses qui t'intéressent.
Ah, réellement, on va parler créatif. Du robot.
Non, on va pas parler du robot à 20 000 $. Mais l'idée pour lui, si tu veux, c'était de dire, enfin, ça n'a aucun sens pour nous en tant que créatifs. D'utiliser de l'IA pour faire ce travail à notre place. C'est ça qui est rigolo. C'est ça qu'on aime faire. C'est ça qui est fun dans le développement de jeux. C'est tout le côté créatif. On a éventuellement se libérer d'une certaine partie du travail qu'on n'a pas envie de faire, qui nous fait chier. Le déléguer à quelqu'un ou à une IA, c'est là peut-être qu'elle commencerait à avoir un intérêt. Mais venir remplacer le côté créatif, aucun intérêt pour eux. Du coup, bah non, on refuse d'utiliser l'IA parce que c'est ça qui nous amuse en fait. C'est ça qui est fun dans le développement de jeu, c'est de créer et donc on veut le faire nous-mêmes. On veut pas le déléguer. On veut pas se remplacer pour ça. Mmh. Je termine avec le dernier, donc Xavier Nelson Jr., donc le CEO globalement, enfin de Strange Scaffold, qui est un studio très très actif qui fait en général 2 voire 3 jeux par an dans plein de domaines différents. Ils ont essayé plein de petits trucs différents, studio très créatif.
Là, on est dans le super indé, par contre.
Ouais, on est quand même dans le très très indé qui a eu quelques succès, on va dire mi-succès, et des comme I'm Your Beast,
oui,
qui a
voilà,
bien marché.
Ouais. Oui.
Mais sinon, globalement, c'est vraiment très expérimental et très narratif aussi au niveau du contexte. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a déclaré à l'occasion du dernier Steam Next Fest qui a eu lieu début octobre, qui a déclaré, donc, moi, quand je regarde les jeux sur Steam, un des premiers éléments qui me permet de filtrer, finalement, ceux qui vont éventuellement attirer mon attention, c'est que, bah, déjà, s'il y a de l'IA d'utiliser dedans, même pour des outils de contenu ou même du contenu promotionnel, c'est-à-dire juste des visuels, etc., c'est non. Voilà, donc c'est déjà quelqu'un voilà qui est quand même relativement reconnu du côté vraiment très indé, qui a déclaré ça très très clairement en disant bah l'IA, dès qu'il y a l'IA, moi c'est que ça ne m'intéresse plus. Donc effectivement on est sur des discours assez différents, même si bon bah il y a une tendance qui est un peu plus marquée à partir du moment où tu vas plus du côté indé.
Oui, c'est ça. En fait, il y a une tendance qui est lourde sur l'utilisation de l'IA et sur des processus de production, et encore plus sur des productions créatives quand il s'agit des plus grosses entreprises. Et le but, en fait, la vraie question, en fait, ça va être effectivement la réponse des joueurs. C'est-à-dire que oui. Pour l'instant, c'est la chose donc qu'on n'a pas abordé aujourd'hui parce que on a qu'une heure d'émission et que on a moins de données dessus. Mais oui, effectivement, ça va être la réponse des joueurs. Mmh. Est-ce que les joueurs veulent des jeux en IA? Est-ce que les joueurs, ça les dérange d'avoir des jeux qui sont faits en IA? Ça, c'est des choses qu'on verra plutôt dans les années futures. Et justement, avec des jeux comme Ark Raiders ou des jeux comme Inzoi, on a un début de réponse.
Tout à fait. Tout à fait. Donc, on n'a pas fini d'en parler.
Ben oui,
clairement pas.
Exactement.
Par contre, on n'en reparlera pas la semaine prochaine.
Ah non. La semaine prochaine, on invite des gens à parler. Et ils vont parler de jeux vidéo et de leurs jeux vidéo et de leur expérience de pourquoi ils ont fait ce jeu vidéo.
Oui.
Et ce sera, spoiler, extrêmement intéressant.
Donc soyez là jeudi prochain.
Soyez là. En plus, ça sera plus intéressant vu que Bettina sera de retour.
En plus, tout à fait. On sera au moins 4.
C'est ça. Merci Romain.
Merci Xavier.
C'était
intéressant.
C'est
toujours trop court sur ce genre de sujet parce qu'on peut en mettre des tartines.
Mais je trouve qu'on s'en est plutôt bien sorti.
J'espère que c'était intéressant en tout cas.
Voilà, comme chaque semaine, on remercie le collectif Presse F5 qui héberge notre podcast Le Nerf de la Game et Radio Canu pour l'accès au studio. On se retrouve la semaine prochaine à 21 h jeudi. sur Radio Canus 102.2. Ciao.
Salut.